informé.
En partenariat avec Radio Galère et 13 grammes.
Une formation.
Une émission créée par des jeunes de Marseille.
Cinéma.
Sport. Culture.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Très informé. Très informé, c'est une formation réalisée par deux médias alternatifs, 13 grammes et Radio Galère. Pendant cette formation, nous avons pu être formés aux médias et à l'information, mais surtout construit notre propre émission. Pendant cette émission, nous allons parler plusieurs thématiques. C'est de musique, du cinéma, du sport et de culture. Autour de la table, nous avons Antoine, Louise, Vincent, Selena, Céline, Titou et moi, Irina. Bonne écoute, merci.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la chronique musique. On va parler de musique et de comment les morceaux en fait sont en train de changer dans l'influence de TikTok et sur les plateformes. Donc les refrains qui arrivent direct, structure ultra courte, gimmick qui reste en tête, la musique semble de plus en plus pensée pour buzzer très vite. On va voir comment ça se ressent dans la pop, la K-pop et même dans le rap français. Et juste après, Louis prendra le relais pour parler avec aussi Vincent du sample. Et je vais aussi vous parler un peu plus tard des clips. On remarque de plus en plus, quand on écoute la musique actuelle, la façon dont les morceaux sont construits a vraiment changé. Et TikTok y est pour beaucoup. Sur TikTok, en gros, si t'as pas accroché l'auditeur en 15 ou 20 secondes, il swipe et ta chanson est vite oubliée. Du coup, ce que l'on voit de plus en plus, c'est des morceaux qui vont direct à l'essentiel, souvent pas d'intro, un refrain qui arrive très tôt, parfois dès les premières secondes. Et là, c'est là où intervient deux notions super importantes en musique, qui sont surtout dans une logique commerciale. On les appelle le hook et le gimmick. Donc le hook, en anglais, si on le traduit, c'est littéralement le terme crochet. C'est l'élément qui accroche l'oreille tout de suite. Ça peut être une phrase chantée, un effet sonore, une ligne mélodique. Il est souvent placé en début ou en fin ou en refrain. Et le gimmick, c'est un peu son cousin. C'est un motif sonore qu'on reconnaît tout de suite, souvent très répété. Ça peut être une petite mélodie de synthé, une rythmique, une intonation. Ces deux éléments, en fait, sont très importants. Ils sont devenus limite essentiels aujourd'hui pour qu'une chanson fonctionne sur les réseaux. C'est ce que tu as dans la tête après 10 secondes d'écoute. Et c'est souvent la partie qui devient le plus virale sur TikTok. Un bon exemple, c'est Ninao de Gims. Et d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. Du coup, le morceau ici, je vous ai mis juste un petit extrait qui représente littéralement ce que c'est qu'un hook vocal. Donc là, le Ninao qui est répété plusieurs fois. Et derrière, une gimmick rythmique avec la batterie qui répète toujours la même structure, très basée sur de l'afrobeat. C'est typiquement le genre de son que tu entends une seule fois et qui te reste dans la tête toute la journée. Et on va écouter un extrait. C'est bon, j'ai déjà dit, je dis n'importe quoi. Et du coup, j'ai une petite question à ceux qui sont autour de moi, autour de cette table. Comment vous ressentez-vous cette évolution des morceaux ultra courts et punchy qui sont pensés pour TikTok? Et est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous frustre ces morceaux-là?
Moi, personnellement, j'utilise pas du tout TikTok. Et je fais de la musique aussi, donc je trouve ça vraiment dommage de baser l'industrie musicale sur un réseau social. Enfin, étant donné que moi je m'en sers pas, je vois pas pourquoi je devrais adapter ma musique à ça forcément. Et même, j'ai pas envie d'écouter des musiques qui sont faites forcément pour accrocher, juste de la bonne musique quoi.
Et Louis ?
Pour ce qui est de la musique TikTok, je trouve que ça prendra double sens parce qu'à la fois ça a permis à des gens de sortir entre guillemets nulle part quoi. Et de développer des carrières après ça. Après, c'est sûr que du coup, depuis cet engouement-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment dans l'industrie musicale. Et il y a un format qui est recherché par les maisons de disques aujourd'hui. Donc c'est sûr que ça peut finalement apporter plus de mal que de bien.
C'est ça. Et du coup, je rebondis sur cette question et sur ce que vous m'avez apporté, parce que moi, j'ai un contre-pied à prendre sur la musique plutôt mainstream française, avec l'exemple de Ninao. Mais si on part du côté de l'Asie, et plus précisément de la K-pop, donc la musique qui est derrière une industrie musicale coréenne, on trouve souvent des morceaux hyper narratifs qui n'hésitent pas à casser les codes habituels de la structure. Ils peuvent aussi y avoir plusieurs changements de style, de tempo, voire même de genre musical en un seul titre. Et un très bon exemple, en fait, c'est God's Menu de Stray Kids, qui en fait est écrit en caractère chinois et mélangé avec l'anglais. Donc de base, le terme, c'est plutôt Shin Menu. Shin en chinois qui veut dire Dieu. Mais quand vous le mettez en caractère coréen, Shin veut dire aussi nouveau. Et en fait, sur cette chanson-là, ils se considéraient comme des chefs cuisiniers. Ils disaient comme quoi ceux qui servaient dans leur album, c'était des chansons tellement différentes que c'était comme un menu. Donc dans cette chanson-là, God's Menu, dans les 60 premières secondes seulement, on passe par des ambiances complètement différentes entre une intro, un couplet intense, un pré-refrain beaucoup plus posé, puis un refrain hyper explosif. Et là, on va écouter de zéro du début jusqu'à une minute à peu près. Donc c'est presque comme si plusieurs morceaux cohabitaient dans une seule chanson, et c'est justement cette richesse, cette surprise constante qui capte l'attention du public bien au-delà de 15 secondes imposées par TikTok. Même chose pour un autre groupe qui s'appelle 80s, un morceau comme Wonderland qui alterne entre passages épiques, sections plus calmes et refrains survoltés. C'est une construction pensée pour surprendre et captiver au début jusqu'à la fin. Et puis ici, on a aussi des artistes qui restent fidèles à des structures très pop, plus classiques, inspirées des années 70 et des années 80, notamment avec la base qui est ABBA. Mais aussi à des artistes d'aujourd'hui comme The Weeknd ou Dua Lipa. Leurs morceaux reprennent cette forme bien carrée, intro, couplet, refrain, pont et dernier refrain. Et là encore, on retrouve des hooks très efficaces, des gimmicks bien choisis, mais tout est posé dans un morceau entier, pas juste pour un extrait. Quand tu écoutes Blinding Lights ou Don't Start Now, tu sens une touche rétro, les synthés bien flashy et la basse groovy. Mais tout est construit pour que tu restes jusqu'au bout. Du coup, aujourd'hui, on a un vrai duel des formats. D'un côté, la musique pensée pour les réseaux, ultra rapide, parfois jetable. Et de l'autre côté, des morceaux plus riches, plus construits, qui assument une narration complète. Et ce qui est fascinant, c'est que dans les deux cas, les producteurs misent sur le hook et le gimmick pour que la chanson reste gravée dans nos têtes. D'ailleurs, ce formatage express qu'impose TikTok, on le retrouve aussi chez certains artistes francophones, notamment dans la scène marseillaise. Prenons Jules par exemple, lui, c'est presque le roi du gimmick viral. Une petite instru en boucle, refrain simplissime, une rythmique quasi identique d'un morceau à l'autre. Tout est pensé pour tourner facilement sur TikTok ou en fond des stories Insta. Sauf que voilà, à force de viser l'efficacité, on perd parfois en profondeur musicale. Ça devient presque un automatisme, une usine à refrains. Perso, j'ai un peu du mal avec cette manière de faire les musiques, juste pour être clippée et reprise. Et puis on a aussi SCH, qui est un peu plus ambivalent. Il peut avoir des morceaux super léchés, presque cinématographiques, comme dernièrement dans son album Julius. Et d'un autre côté, sortir des titres qui rentrent pile poil dans la matrice TikTok. Avec beat trap, hook répété, un visuel clippé presque à buzzer. Et on sent bien que même chez les artistes établis, il y a une tension entre l'envie d'innover, de raconter quelque chose, et celle de rester dans le coup au collant au format du moment. Et cette tension, elle traverse toute l'industrie, entre création sincère et recette virale, beaucoup d'artistes doivent jongler, parfois au risque de se perdre un peu en chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tiraillement entre viralité et vision artistique, on le retrouve aussi dans des clips. Justement, au-delà du son, l'image joue un rôle énorme dans la réception d'un morceau aujourd'hui. Les clips sont devenus bien plus que des illustrations, ils sont au cœur de la stratégie artistique. Et pour en parler, on a bien évidemment des exemples comme ceux de Jason Derulo, Niska, Nino, Gims et Pitbull, qui eux vont les utiliser comme des outils de com, avec souvent des placements de produits dans leurs clips. Notamment, par exemple, si on prend l'exemple de Gims avec le clip de Ciel, on est sur les montagnes, peut-être des Alpes, et derrière, on a une Ferrari sur ces montagnes. On se pose la question, pourquoi ? Comment ils ont réussi à mettre cette Ferrari sur cette montagne ? Mais à l'inverse, il y a des artistes qui utilisent le clip comme véritable support artistique, presque comme un court-métrage. Je pense notamment à Théodora qui a sorti juste récemment hier Flash Fashion Designer, ou encore même le clip Congolais sous BBL, où la direction artistique est très très soignée et très inspirée de beaucoup d'artistes, de par les clips de K-pop, mais aussi de certaines artistes comme Mylène Farmer qui ont quand même une direction artistique très précise. Et lorsque je parle de K-pop, on va même encore plus loin. En fait, le clip, il est littéralement essentiel parce qu'il met en image le concept de l'album. Il fait partie intégrante de l'identité du groupe. Tout est millimétré, chorégraphie, couleur, narration, c'est souvent aussi fort que le morceau lui-même. Dites-vous bien que même ce qu'on appelle des jump cuts dans le montage vidéo sont tellement millimétrés sur des mouvements de danse des artistes pour qu'on passe d'une scène à une autre comme si en fait on avait le même mouvement et le même endroit alors que pas du tout le fond change. Donc aujourd'hui on peut dire qu'il y a deux logiques, celle du clip produit marketing et celle du clip comme œuvre artistique. Et quand on parle de répétition, il y a quand même un élément qui est super important, qui est le sampling. Et là, je vais laisser Vincent et Louis en parler beaucoup plus profondément. À vous la parole.
Déjà, je valide le clip de Théodora, il est incroyable. et du coup, on va vous parler des samples et du sampling en général. Alors du coup, je vais déjà demander autour de moi, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sample et qu'est-ce que c'est pour vous? Ok, bah du coup c'est un fragment audio, on va dire. Donc ça peut soit venir d'une prise de son qu'on a faite et qu'on a fragmenté, soit un extrait de musique qui existe déjà, ou même un extrait de média type discours, etc. Il y a pas mal d'exemples, en vrai je pense que tout le monde en a un. Ça a été pas mal utilisé à partir des années 90, du coup notamment dans le hip-hop, etc. Mais en vrai, ça a commencé dans les années 40 avec la musique concrète de Pierre Schaeffer, en France notamment. Et du coup, ça peut être aussi à différentes échelles. Ça peut être une simple note d'un morceau qu'on reprend, voire une séquence mélodique complète, ou pareil avec des rythmiques, juste un son, ou alors toute une séquence rythmique. Du coup, voilà pour ce que c'est. Et du coup, forcément, ça engendre beaucoup de choses, donc notamment un enjeu créatif. Est-ce que du coup, ça reste de la création ou est-ce que c'est de la copie, on peut dire ? Du coup, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous en utilisez peut-être dans votre pratique ?
Ouais, dans ma pratique, j'en utilise pour faire des montages sons, même des ambiances. Je trouve que le sample, il a son utilité dans certains moments. Il est extrêmement présent à l'heure actuelle, comme tu le dis, dans la musique. Et il permet à plein d'artistes, même émergents, de pouvoir faire de la musique. Mais de l'autre côté, le sampling, il a quand même une question légale derrière. Il y a quand même cette grosse question légale qui se pose.
Bien sûr. Toi, Louis, qu'est-ce que t'en penses ?
Ça m'arrive aussi de m'en servir, pareil en composition, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant, notamment quand tu essaies de développer ton oreille en fait, d'aller chercher ce que tu pourrais utiliser en fait dans la musique d'autres gens, ça fait découvrir beaucoup de sons aussi je trouve, donc c'est pour ça que cet argument qu'on peut souvent retrouver que c'est copié ou quoi, je suis pas d'accord avec ça, ouais. Surtout quand tu vois le travail qui est mis derrière, quand t'as des personnes qui commencent à sampler plusieurs morceaux en fait, ouais. À tous les remettre dans la même clé, tout ça, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'écoute, quoi.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec tout ça. Je pense notamment ça peut être intéressant aussi pour des clins d'œil, que ce soit politique, militant, humoristique, en fonction, je sais pas, si par exemple on prend un extrait de film, bon, après c'est questionnable en fonction de l'extrait choisi, etc. C'est aussi en vrai un médium de composition à part entière, ça permet de créer plein de choses, on peut faire ce qu'on veut, on peut créer une basse à partir d'une voix, réorganiser une séquence rythmique en la découpant à l'intérieur, tout ça, en vrai c'est vraiment créatif. On peut aussi sampler de plein de manières différentes en fonction de ce qu'on utilise, que ce soit dans un logiciel ou la machine qu'on utilise. On peut avoir plein de résultats différents. C'est vraiment intéressant, je trouve, et comme disait Louis, ça permet de découvrir des sons qu'on n'aurait même pas pensé, même des fois, d'obtenir avec cet extrait-là. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, il y a aussi, comme disait Selena, un aspect juridique qui peut poser problème à cause des droits d'auteur, du coup. Donc ça c'est vachement dû aussi au caractère reconnaissable du sample, donc en fonction de comment le sample a été transformé, si c'est vraiment reconnaissable, c'est vrai que ça va pouvoir poser problème pour les artistes qui ont été samplés, du coup. Il y a aussi tout un système d'accord au préalable, donc on peut très bien demander les droits d'auteur pour sampler, souvent ça se fait. Parfois il y a des accords aussi a posteriori, une fois que c'est sorti, une affaire qui se lance. Puis au final, il y a un accord à l'amiable qui est fait entre les deux parties. Mais parfois, il y a des affaires qui vont jusqu'à la destruction de disques qui contiennent des samples, tous les disques qui sont sortis. Enfin voilà, j'ai vu pas mal d'histoires comme ça. Puis il y a aussi maintenant des systèmes que les labels mettent en place. Carrément des algorithmes qui repèrent sur toutes les sorties des samples qui peuvent éventuellement avoir été utilisés. Et du coup, maintenant, on va voir un peu quelques exemples du coup, que Louis nous a sélectionnés.
Voilà, avec Vincent, on s'était dit que ça pourrait être sympa de mettre des mots là, sur ce dont on vient de parler. Donc j'ai choisi plusieurs morceaux, certains de J. Dilla qui me semblent importants dans ce champ musical-là, qui a été une grosse source d'inspiration pour les producteurs de son époque jusqu'à aujourd'hui. Donc on vous a choisi plusieurs extraits. Le premier d'un morceau qui s'appelle DD24 et qui sample un morceau. On vous passera le son samplé après l'extrait du morceau qui sample. Voilà, donc dans ce premier morceau, on peut entendre un air de guitare qui est repris d'un morceau de Hank Jones et Oliver Nelson. C'est un son qui est sorti en 1967 et qui s'appelle Fugue Tunes. Voilà, donc comme je disais, on va continuer avec J. Dilla. Un autre morceau qui lui s'appelle Someone Used This, Already, et qui cette fois sample un morceau de Vangelis. Vangelis qui est un compositeur très connu qui a bossé notamment beaucoup sur la musique à l'image, il a fait beaucoup de musique de film, tout ça. Et donc là, ce qui est samplé, c'est un morceau qui s'appelle Stuffed Aubergine, qui est sorti en 1971. Donc comme je disais, un morceau qui sample un autre morceau de Vangelis qu'on va écouter tout de suite du coup. Euh, Pour changer un peu, parce que j'ai beaucoup parlé de Jay Dilla jusqu'ici, il y a aussi RZA qui est un producteur très connu, qui a beaucoup bossé avec le Wu-Tang par exemple. Et donc là, sur l'album solo de Raekwon, il y a un morceau qui s'appelle Heaven and Hell, qui sample un morceau qu'on écoutera juste après.
Yo. Side of type shit, 94, we must go to war fast, with the pen in the pad, goddamn, shine like gold rust on pathfinders, tank declines.
Voilà. Donc cette fois samplé un morceau de Syl Johnson, un morceau qui s'appelle Could I Be Falling In Love, et qui est lui sorti en 1974, et on va écouter ça tout de suite.
Always been fond of you, but strange things are starting to occur. Things are changing.
Voilà. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand on discutait avec Vincent, notamment sur les accusations qu'il peut y avoir des samples de découler d'un manque de créativité ou des choses de cette sorte-là. Je vais reprendre un dernier exemple de Jay Dilla, un morceau qui s'appelle Don't Cry, qui sample un morceau d'un groupe qui s'appelle The Escort, I Can't Stand to See You Cry. Jay Dilla, il est mort assez jeune, en fait, d'une maladie rare, du sang, et en fait, quand il a composé là, ce morceau, un album plus complet, mais là, c'est de ce morceau dont je vais parler. Il l'a composé spécialement pour son frère, en fait, qui était très attristé de le voir partir si vite. Et donc, voilà, c'est un morceau qui s'appelle Don't Cry. Don't cry. I'll show you how my voice would have made an unbelievable thing good.
Oh, okay, Joy.
I can't stand to see you cry.
I can't stand to see you cry.
If tears stand to see you cry.
Voilà. Donc comme je disais, un morceau de The Escort, I Can't Stand to See You Cry, qui est lui aussi, comme le morceau précédent, sorti en 1974. Pour finir sur les exemples, on va enchaîner après sur une pause musicale. Non? Ah, ok. Bah écoutez, on avait choisi un dernier exemple du coup à Marseille là cette fois-ci, avec un morceau de la Funky Family qui s'appelle Art de rue et qui sample un son des années 80, Rockwell, Somebody's Watching Me.
La chaleur. DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale.
Voilà. Donc le morceau qui s'appelle, qui est samplé, qui s'appelle Rockwell, Somebody's Watching Me, de 1983.
C'est Lena, Louis, Vincent, pour votre chronique musicale. Tout de suite, nous accueillons Titou. Bonjour, Titou.
Bonjour et merci à 13 Grammes et Radio Galère de nous accueillir et nous partager ce magnifique stage.
Merci
à Louis et Vincent pour la culture, c'était important quand même, j'ai fait des bonnes découvertes. Et quand on m'a donné la chance de me demander sur quoi je voulais travailler, j'ai cash parlé de football parce que on était lundi, il y a eu la victoire du PSG en Ligue des Champions qui m'a foutu un peu la rage, je dois l'avouer. Du coup, j'ai concocté un petit article sur le football business et sur le foot populaire, qu'est-ce qu'il en devient. Et déjà, j'aimerais rappeler qu'on n'est à jamais les premiers. Hein, déjà, même si ça fait 15 ans qu'on n'a rien gagné, on n'a jamais le premier. Et que le PSG, après 12 ans ou je ne sais plus combien, ou 13 ans de galère, ont réussi à avoir leur coupe aux grandes oreilles avec un effectif, un 11 de départ à plus de 500 millions. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et je trouve ça absolument aberrant. Et du coup, je me demande à quel prix, c'est quoi le prix de la victoire ? C'est limite une victoire payante. Et du coup, le football business, il est en train de tuer petit à petit les enfants terribles d'Europe, les enfants terribles du monde, les clubs populaires, les clubs qui veulent en découdre. Et du coup, je me suis posé la question de c'était quoi l'avenir, parce que c'est une époque un peu assez floue pour le football. Je pense que comme moi, beaucoup d'entre vous, on s'en tombe amoureux du foot romantique. Du foot qui a la classe, le col relevé à la Cantona, les chaussettes basses. Et moi, c'est un truc, ça m'a beaucoup touché petit. Et je vois de moins en moins, mais justement, des footballeurs comme ça, des clubs qui revendiquent des choses, même si, bien sûr, il y a les irréductibles, l'Olympique de Marseille. Voilà. Et du coup, on va parler d'investissement, de surinvestissement, de déséquilibre des forces de la nature dans les clubs de foot. Que ces petits clubs, malgré tous ces montages financiers, ces rachats de clubs, tous ces City Group notamment, avec City qui détient beaucoup de clubs en Europe, avec Manchester City, 3, Palerme, New York, mais ça c'est de l'autre côté de l'Atlantique, Istanbul et Gironde. Et en fait, moi je vois un peu une invisibilisation des clubs locaux, une petite perte d'ambition, un manque d'objectifs. Et ça me chagrine parce que malgré les bons résultats de Gironde sur ces dernières années, on voit de moins en moins ces petits clubs évoluer de la bonne manière. Et on ne va même pas parler de Chelsea et de son Chelsea Group. Petite pensée à Strasbourg quand même parce que c'est la galère et personne ne les regarde. Je voulais qu'on n'oublie surtout pas que malgré tout ça, les strass, les paillettes, la politique, les salaires mirobolants, le star system et tout, le foot à la base, c'est nous. C'est tout le monde qui est autour de la table, c'est du partage. On se sent représenté parce qu'on joue avec la balle au pied. On entre collègues, on met la tête sous la fontaine quand il fait trop chaud dans la canicule. On joue torse nu, on va voir les matchs de son club local, on va jouer avec son club de quartier. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est un truc qui nous a été donné, c'est l'opium du peuple, il ne faut pas l'oublier. Et je pense qu'à trop vouloir ce que les clubs, que les présidents, que les groupes veulent... JTB. À trop vouloir ça, le foot, il se perd petit à petit. Et c'est nous qui allons au stade, c'est nous qui foutons le why. C'est nous qui se serrons les coudes, on se déplace, on transmet, on partage. C'est nous qui faisons vivre les instances au fond, donc n'oubliez jamais votre puissance. Et rassemblons-nous, moi c'est juste un appel au rassemblement que je fais dans cette petite émission. Rassemblons-nous, restons à contre-pouvoir parce que le football populaire c'est ça. C'est des ultras, c'est Saint-Pauli, c'est des clubs antifa, c'est l'Olympique de Marseille, c'est l'AEK Athènes. C'est énormément de clubs en France. Et gardons le why, foutons le why comme 2P, foutons le why comme Luxe B. Et allez l'OM, les gars. Merci à 13 grammes, merci à Radio Galère, merci à tout le monde, les gars. Désolé. Super.
Merci Tito pour la chronique du sport. Et Selena et Alex reviennent sur le plateau pour parler du cinéma.
Bon. Après avoir transpiré avec la chronique sport, on s'installe confortablement, pop-corn en main, et on passe à la chronique cinéma. Aujourd'hui, on vous embarque dans un petit voyage entre nostalgie, doublage made in France et création locale made in Marseille. Exactement, entre les remakes en live action, le doublage dans la pop culture et la scène ciné marseillaise en pleine évolution, on avait envie de se poser et d'en parler franchement, parce que parfois, en tirer sur la nostalgie et les réalités de l'industrie, il faut savoir faire le tri.
Les films en live action, on en voit partout depuis un bon moment. C'est même devenu une mode dans l'univers du 7e art. Mais est-ce qu'on assiste à une explosion de créativité ou juste à une industrie qui tourne en rond ?
spoiler alerte, c'est souvent, comment dire, la deuxième option. Hein. Prenons Lilo et Stitch, par exemple, sorti en 2002. C'est une œuvre animée hyper touchante, très marquée par son esthétique et sa culture. Et là, on nous ressort une nouvelle version avec des effets CGI discutables et une perte de charme. C'est pas parce que c'est mauvais, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ?
On surfe clairement sur la nostalgie. Et Disney n'en est pas à son dernier essai. Roi Lion, Blanche-Neige et les Sept Nains, Mulan, La Petite Sirène. Que des noms qui parlent de notre génération. Mais à force de piocher dans les licences connues, on finit par ressentir ce manque cruel d'originalité.
Tout à fait. Le problème, c'est qu'il touche à un public qui a grandi avec. Et pour le présenter à la nouvelle génération et surtout faire du chiffre. Mais derrière, en fait, les œuvres originelles ou indépendantes, elles galèrent à se faire une place en soi.
Mais avant de développer, commençons par définir le terme. Le live action est une adaptation en prise de vue réelle, tirée d'une licence d'un dessin animé, manga, jeu vidéo ou BD. Depuis l'année 2024, ce concept est plus ou moins utilisé, et on va pas se mentir, c'est pas toujours aussi réussi. Hein.
Effectivement, il y a deux écoles. Ceux qui respectent l'univers ajoutent un peu de réalisme, par exemple avec One Piece sur Netflix, diffusé en 2023, plutôt fidèle au manga, ou Cendrillon de Kenneth Branagh, sorti en 2015, en deux mots, élégant et maîtrisé. Et il y a ceux qui font n'importe quoi, par exemple Dragon Ball Evolution en 2009, un traumatisme collectif avec une histoire plate et un casting désastreux. Ou encore Blanche-Neige de Disney cette année qui vient de sortir, qui divise déjà et entre casting et ambiance de l'histoire dans un plateau, ma foi, avec une très mauvaise com.
Même chose du côté des BD franco-belges. La saga des Astérix, du Cobu, Marsupilami, Lucky Luke. Parfois on rigole, mais parfois on se demande ce qu'ils ont fait à notre enfance.
Et oui, et les jeux vidéo alors. Il y a eu Uncharted, Tomb Raider, Sonic, Five Nights at Freddy's, Minecraft tout récemment, avec des fortunes très 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 diverses.
Ce qu'on peut se dire, c'est... Bon, la question est simple quoi. Est-ce que vous préférez une adaptation ultra fidèle ou un remake qui ose tout, quitte à diviser? On vous laisse sur cette question et voilà, on va passer à la suite.
On peut continuer. En ce qui concerne les doublages et les jeux vidéo... C'est à toi. Ah,
c'est vrai. Le doublage, un métier sous-coté et parfois essentiel, surtout dans l'industrie du jeu vidéo ou du cinéma. J'espère que je vous apprends rien que les films américains ne parlent pas français, et c'est grâce à eux qu'on a droit à la saga de Marvel, traduite et doublée par des Français. Si je vous dis Donald Renew, Thierry Desrose, Dorothée Pousseau, Christophe Lemoine ou même Brigitte Lecordier, ces noms vous disent rien peut-être.
Mais si je vous dis Titeuf, Nick Fury, Harley Quinn, Cartman ou Sangoku, là on parle la même langue. On les reconnaît tous pour leur jeu d'acting, leur design et surtout leur voix unique. Ce sont eux qui ont bercé nos séries, nos animés, nos jeux et pourtant ce métier est un métier en menace d'extinction.
Effectivement, une belle VF, il y a du travail, du jeu et de l'émotion. Mais certaines productions cherchent à gagner des gains en remplaçant nos chers doubleurs par l'intelligence artificielle. On peut pas juste le remplacer par une star d'internet qui lit son texte sans âme. C'est aussi une question de valorisation de la culture francophone. Si vous voulez les soutenir, une pétition ainsi qu'une collecte de fonds a été créée afin que les producteurs renoncent à cette pratique. L'association s'intitule « Touche pas ma VF ».
D'ailleurs, en parlant de stars d'internet, connaissez-vous l'anecdote de Louis San et le jeu Assassin's Creed Shadows ? Pour ceux qui ne savent pas, Ubisoft France a proposé une collaboration avec celui-ci, connu pour ses vidéos sur la culture japonaise. Il s'est engagé pour incarner un fou allié et le résultat est spécial. Écoutons tout de suite cet extrait.
Les hommes de Bizen ont payé pour séjourner au château de Himeji.
Qui l'a commandité cette attaque ?
Un samouraï de Chugoku pour le compte de son maître. J'ai suivi ces hommes et ils ont infiltré le château. Une fois qu'ils ont reçu cet étrange code, la situation a dégénéré. Je ne pensais pas qu'ils enlèveraient le fils d'un daimyo.
L'étrange divination.
Prenez-le, brûlez-le, ça m'est égal. Il porte malheur, comme moi. Surtout à ma femme.
Alors je vous rassure, il n'a pas du tout aimé sa prestation. Il s'est promis de ne plus en faire et il s'en manque ouvertement. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas désabonné pour autant. Hein. Juste, je t'adore. Hein. Alors, je vais pas vous mentir, c'est plus un coup de marketing qu'un choix artistique. Et ça fout un peu un coup à l'image du doublage en France. Parce que le doublage, c'est avant tout un métier d'artiste, conçu pour des gens passionnés qui maîtrisent leur voix tel un instrument et qui s'effacent derrière un personnage pour mieux le faire vivre.
Effectivement. Et on voulait aussi zoomer sur ce qui se passe chez nous à Marseille, parce que même si on n'est pas à Paris, il y a une vraie envie de faire bouger le milieu ciné ici. Et pourtant, ce n'est pas facile. On pense à l'association Phare et Balise qui a dû... qui a notamment beaucoup de projets, qui a beaucoup de personnes qui se forment au cinéma et au théâtre. Et je pense notamment à Malène Kebizi, qui est une ancienne formée chez Farah et Balise, qui a été récemment nommée au César. Comme quoi, même si on commence très bas, on peut quand même arriver à gravir l'échelle. Et du coup, en ce qui concerne la conclusion sur cette petite chronique cinéma ?
Eh ben, alors que ce soit dans les grands studios hollywoodiens ou dans les quartiers nord de Marseille, le cinéma, c'est avant tout une question de passion, d'authenticité et d'histoire bien racontée. Mais pour cela, faut donner la parole aux bons artistes, respecter les pros du doublage et surtout arrêter de recycler les mêmes histoires juste pour vendre des tickets. C'était notre coup de projecteur de la semaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique. En attendant, allons voir des films différents. Soutenez les projets locaux et surtout, gardez votre curiosité bien allumée.
Et du coup, on va laisser la parole à Célian qui va faire une petite interview.
Bonjour à tous. Marseille regorge de talents sur plein de domaines culturels. De nombreuses associations font vivre la culture de la ville à travers des interviews. Aujourd'hui, on va parler de deux de ces assos, Brie Marseille et 13 grammes. Pour Fred de Brie Marseille City, c'est une association qui valorise la culture urbaine du territoire, son paysage artistique et ses artistes déjà installés, mais aussi émergents. Pour ça, BMC utilise leurs médias sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta. Pour eux, Marseille est remplie de talents bruts, mais aussi de légendes locales qui ne sont pas assez mises en avant. Ils ont donc pour mission de contribuer à faire rayonner la ville et ses talents au-delà de la cité phocéenne. L'idée est pour eux d'avoir... Vous pourrez assister à leur événement tout au long de l'été. Au kiosque du parc Longchamp, ils participent en collaboration avec la mairie du 4e et du 5e à l'été marseillais les samedis après-midi. Début août, ils organisent avec un producteur un concert sur le Vieux-Port. Et enfin, fin septembre, vous pourrez assister à un plateau urbain lors de la Foire de Marseille. Aujourd'hui, on est avec Rania de 13 grammes. Bonjour Rania.
Bonjour.
13 grammes, c'est un média alternatif pour la jeunesse marseillaise. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le but de l'association 13 grammes ?
Ok, très bien. Alors, il faut savoir que 13 grammes a été créé pour mettre en avant la jeunesse ambitieuse, la créativité et vraiment tout ce qui n'est pas mis en valeur de base sur la ville marseillaise. C'est vraiment mettre en lumière et mettre en avant tout ce qui n'est pas sur le devant de la scène tout simplement et vraiment enlever tout ce qui est stéréotype qu'on peut avoir sur cette ville.
Et donc, comment vous mettez la culture marseillaise justement au devant de la scène ?
Alors, comment on essaye de faire ça ? Tout simplement, déjà, en faisant des couvertures d'événements, on essaye au mieux de faire cette communication-là, parce qu'il faut se le dire que Marseille, en termes de communication, elle est de zéro, et je tiens à le préciser. Donc, vraiment, mettre en avant tout ce qui est événements, aussi, du coup, faire la communication d'autres associations, parce que sur Marseille, il y a beaucoup d'associatifs sur vraiment n'importe quel domaine. Bah, par exemple, tu as parlé de Phare et Balise. Phare et Balise, c'est quand même une association en termes de cinéma qui est vraiment top. Il y en a plein d'autres, Les Déterminés, Human Life, qu'on a pu interviewer. Et vraiment mettre ça en avant et également aussi la jeunesse, montrer que tout est possible à Marseille, qu'il ne faut pas perdre espoir, que dans cette ville, on a énormément de créativité, énormément d'ambition. Il faut se dire qu'on est déterminé, il faut tout faire quoi, pour.
Et du coup, pourquoi c'est important pour la ville justement ?
Alors c'est important pour la ville parce que, déjà pour nous-mêmes je pense, pour les habitants de Marseille en général, je pense qu'autour de cette table on sait tous qu'on est un peu mal vu auprès des autres villes ou tout simplement même des autres pays, on peut dire ça comme ça, parce que lorsqu'on parle de Marseille, généralement c'est toujours les mêmes stéréotypes qui viennent en avant, la drogue, les guerres de gangs et tout le tralala, alors que nous-mêmes habitants ici on sait très bien qu'il n'y a pas que ça et qu'il y a plein de très très belles choses à Marseille et qu'il faut le montrer, donc voilà tout simplement.
Et comment vous trouvez les personnes que vous interviewez au cours de vos interviews ?
C'est-à-dire comment on les trouve?
Bah, comment vous les contactez, comment vous dénichez vos interlocuteurs?
Ok, très bien. Alors, en toute honnêteté, au début, c'était plutôt du bouche à oreille. La première chose qu'on a fait, c'était pour Farid Balise. On est parti à un événement, une projection qui avait été faite par Nassim Bouguezi, donc un acteur. Et par la suite, on a rencontré par exemple d'autres acteurs comme Idir Azougli, etc. Et donc, ça a été vraiment au fur et à mesure. Et du bouche à oreille, ou puis des fois, on nous contactait également. Donc, c'est avec cette facilité-là.
Ok, bah merci beaucoup, Rania. Voilà,
je t'en prie, il n'y a pas de souci.
C'était tout pour moi.
Merci tout le monde d'avoir participé à l'émission. À bientôt. Au revoir.